Alors, bienvenue à cette rencontre du RECH, le réseau évangélique et sciences humaines. Il faut dire que là, on inaugure en quelque sorte ce genre de réunion parce que c'est la première fois qu'un de nos réseaux GBU essaie de faire une journée en ligne. Mais on sait que c'est assez lourd parfois d'écouter trop longtemps, donc on a réparti ça sur 3 samedis. Donc, comme vous avez vu, les prochaines fois sera au mois d'octobre, novembre, je pense. Et ce serait en anglais avec traduction assurée, parce que Zoom a une fonction maintenant qui permet cela. Donc, on va tester cela la prochaine fois. Donc, bienvenue à cette journée. Je vais juste rappeler le thème: être chrétien, une plus-value professionnelle, point d'interrogation. Et nous avions dit que nous avons posé les questions: est-ce que ma foi change ma façon de travailler? Si oui, en quoi serais-je un meilleur sociologue, psychologue, philosophe, historien, puisque je suis chrétien? Est-ce que ma foi transparaît-elle dans mes pratiques? Est-ce qu'elle a une influence sur mon travail ou est-ce que je la cache? Voilà les questions qu'on se pose. Et donc, c'est Lydia qui va donner le coup d'envoi. Mais comme on a dit tout à l'heure, il serait bien que chacun puisse se présenter en 2 phrases, dire ce que l'on fait dans la vie, où on habite. Et comme cela, on est un petit peu quand même un groupe. Donc, je ne sais pas si l'écran est pareil pour tout le monde, mais d'abord, je vais commencer en haut à gauche sur mon écran en souhaitant la bienvenue au nouveau secrétaire général des
J'ai l'impression que c'est moi.
GBU. Johan Tourne. Donc, si tu veux dire un mot.
Alors, je m'appelle Johan Tourne, je suis nouveau secrétaire général des GBU. Je suis aussi coordinateur des réseaux et j'habite à côté d'Orléans et je suis content d'être là. Voilà.
Ok, alors ensuite je passe à Catherine.
Alors, Catherine Richardot, je suis médecin généraliste et maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, je fais des thérapies tant que médecin. Et je suis à Montpellier, enfin, dans la région de Montpellier où j'ai fait mes études, où j'étais au GBU quand j'étais étudiante en médecine. Voilà, il y a fort longtemps, comme ça peut se voir à des indices.
D'accord. Excellent. Ok, alors Noémie.
Alors, du coup, moi, c'est Noémie Carnal. J'habite en Suisse, dans la région de Neuchâtel. Et je suis stagiaire avec Timothée. Et avant ça, j'ai fait des études de biologie et ethnologie.
Merci. Timothée.
Bonjour tout le monde, Timothée José, j'habite Neuchâtel, je suis coordinateur régional des GBU là-bas. Et une de mes tâches, c'est aussi tout le lien qu'on appelle chez nous dialogue et vérité, donc le lien entre la foi et les études. Donc dans ce cadre-là, voilà, un travail notamment avec des groupes d'étudiants. Et puis on est en passe de commencer à lancer un groupe justement Lettres, Sciences humaines et foi, quelque chose d'un peu plus informel que le RECH. Mais donc on se réjouit beaucoup de pouvoir participer pour une fois sans devoir venir à Paris.
D'accord. Très bien. Ok. Donc c'est. Excusez-moi, j'ai pas le prénom
C'est
ici.
Florence.
Florence, ok.
Oui,
D'accord.
c'est Florence.
Ouais. Alors.
Alors, j'ai des problèmes de connexion, alors j'espère que vous m'entendez bien.
On entend bien. On
Donc,
entend très bien.
voilà. Alors, moi, je suis dans le fin fond des montagnes auvergnates, à côté du Chaumont-sur-Lignon. Et je suis conseillère de gestion économique pour les agriculteurs. Et j'ai été au GBU dans le cours de mes études. Voilà.
Bien, merci. Wesley.
Rebonjour tout le monde. Donc, je suis en Guyane, enseignant, ancien étudiant à l'IBN, ancien président aussi à Crystal Impact, qui coordonne les volontaires en Guyane enfin, des GBU.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on s'est vu quand Johan et moi étions en Guyane? Je ne me souviens plus parce qu'on a rencontré tellement de personnes.
Je ne crois pas.
C'était en quelle année, Johan, tu te souviens?
Je crois que c'était 2011, un truc comme ça.
Oui, d'accord.
Alors, je devais être déjà rentré, mais je devais être sur Saint-Laurent, donc dans l'ouest. Là, je suis sur Cayenne.
D'accord, très bien. Ok, merci. Joseph?
Oui, alors, hop, voilà, tu dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est pas plus rapide. Hop, allez. Donc, sinon, moi-même, je suis enseignant de sciences économiques et sociales, on va dire économique, c'est plus court, donc au lycée. Hein. Et j'habite, vous montez dans le nord de la France, vous remontez encore, et j'y suis, donc du côté de Lens. Allez, on va dire Lille, pour ceux qui ne savent pas trop, mais voilà.
Oui. Non, salut d'être à mon côté.
Et donc, membre du comité du REC.
Okay.
Alors, Sophie. Sophie.
Oui. Bonjour, moi je suis en Angleterre, donc encore plus au nord. Je suis au sud de Londres et je suis enseignante de français et d'espagnol en collège et lycée. Et j'étais au GBU il y a environ 6 ans. Donc, je connais bien Marion et Johan un petit peu. Ouais. Voilà.
Et tu es dans quel GBU à l'époque?
J'étais à Paris, donc un des GBU de Paris, je ne sais plus lequel maintenant. Mais je me suis convertie au GBU. Donc,
Ah, très bien. Excellent. Et Michael?
Voilà. Alors, Michael dit désolé, pas de son, pas d'image.
Voilà, c'est ça. Bon, je lis ce qu'il dit. Je suis juste un curieux dans le sud-ouest. Je ne travaille pas dans le sud-ouest même, professionnellement parlant. Ça m'intéresse quand même. Ancien GBUcien de Lyon. Voilà. Bonjour. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Lydia, hein, parce que tout le monde la connaît, je pense. Directrice d'études à l'Institut public de Nogent. Très engagée à la fois dans le réseau des sciences et les réseaux des sciences humaines. Parce que Lydia a beaucoup, beaucoup de casquettes en théologie, sciences humaines, etc. Donc, c'est elle qui va nous apporter l'enseignement ce matin. Alors, ce qu'on a prévu, c'est qu'on fera deux pauses pendant l'intervention qui permet de poser des questions. L'idéal pendant ces pauses, mais on n'exclut pas des questions en live, mais si vous posez la question sur la conversation, sur le chat, selon votre langue, ça nous permet d'aller un peu plus vite. Donc, comme Michael a laissé donc un petit mot sur converser. Alors, ce qui fait que, voilà, on aura l'occasion de poser des questions. Alors, je passe la parole à Lydia. Je pense que le mieux, c'est que chacun met sur mute, muet. Donc, j'ai appris un nouveau verbe pendant le confinement. Muter, ce n'est plus on envoie dans une autre ville, mais on coupe le micro. Donc voilà, à toi Lydia.
D'accord, et donc c'est Johan qui surveille la salle d'attente? D'accord, très bien. Parce qu'il y a encore une dizaine qui devraient nous rejoindre. Donc,
ouais, je leur envoie un mail pour leur rappeler.
D'accord, très bien. Donc, effectivement, donc, j'ai l'honneur d'inaugurer cette formule donc, qui est une formule test et qui en même temps donc, ouvre notre journée REC, donc repartie en trois bouts. Voilà, donc être chrétien et une plus-value professionnelle. Et donc, voilà, le titre donc, que nous avons choisi pour mon intervention, doit-on mettre sa foi entre parenthèses quand on pratique les sciences humaines, fondements philosophiques et théologiques. Donc, je vais progresser en trois temps. Donc, le premier temps sera donc vraiment un peu les fondements, on pourrait dire philosophiques, voire en fait épistémologiques. Hein, je crois qu'il faut partir de la théorie de la connaissance pour comprendre, disons, ou pour savoir quel rôle la foi peut jouer dans la pratique des sciences humaines. Et donc, un deuxième temps où je vais montrer ou plaider donc ma thèse que la foi est vraiment une plus-value en sciences humaines, et donc surtout par des exemples assez concrets, en tout cas que j'espère concrets. Et un troisième temps où j'ai voulu retourner la question et montrer en quoi les sciences humaines sont aussi une plus-value pour la foi et pour l'Église. Donc, je pense que c'est la deuxième partie qui sera peut-être la plus, disons, qui devrait être au cœur de nos échanges. Voilà, donc avec une première partie qui est le fondement et un troisième temps qui serait peut-être un peu un bonus, j'ai envie de dire, pour encourager ceux qui travaillent en sciences humaines, qu'ils ont une place dans l'Église et pas seulement en tant que simples chrétiens, bien sûr, mais dans leurs compétences professionnelles. Donc, je m'excuse, effectivement, donc le début sera un peu théorique. Voilà, donc là, c'est ma formation de philosophe et psychologue qui ressort, mais j'ai cru nécessaire de faire ce détour. Parce que je voudrais alors dénoncer ce que je crois être une illusion, donc l'illusion de la science neutre, mais qui se trouve derrière cette idée qu'on peut en fait pratiquer les sciences humaines sans recours à la foi, et donc là à la foi au sens large, pas forcément à la foi chrétienne, mais dans le sens de convictions métaphysiques religieuses. Et donc celui qui veut faire intervenir la foi donc dans la pratique des sciences se heurte à une objection formidable qui est justement l'idée de la neutralité de la raison. On pourrait dire que c'est une idée héritée des Lumières. Donc, je vous rappelle Kant, par exemple, qui formule cette dichotomie entre les faits et les valeurs, entre la science d'un côté, la foi de l'autre, donc la science qui est du côté du pôle de la connaissance et la foi donc, qui est du côté du pôle donc, de la pratique et des valeurs. Et c'est une idée extrêmement influente tout au long du 19e, 20e siècle. On pourrait dire qu'elle a un peu, disons, trouvé son apogée avec le positivisme empirique et le cercle de Vienne au début du 20e siècle. Alors, je ne vous fais pas toute une histoire de la philosophie des derniers 300 ans, mais voilà, donc j'ai juste choisi un moment clé. Et avec deux citations, c'est forcément très électique. Voilà ce qu'on peut lire dans le manifeste du Cercle de Vienne, donc de ce groupe de philosophes qui se réunit dans les années 20 donc à Vienne autour de Moritz Schlick. Et qui, donc on y lit ceci. Ce qui relie les hommes dans le langage, ce sont les formules structurelles. Elles représentent le contenu de la connaissance commune aux hommes. Les qualités vécues subjectivement, le rouge ou le plaisir, sont en tant que telles seulement des expériences vécues, non des connaissances. Dans l'optique physique, entre seulement ce que même un aveugle peut en principe comprendre. Donc l'idée, donc là, alors il parle de la physique, mais pour le cercle de Vienne, il n'y a qu'une science. Donc il y a une science unifiée qui englobe en fait toutes les démarches qui aboutissent à la vraie connaissance. Donc, cette science-là peut se réduire à des formules structurelles. On peut l'écrire sur un bout de papier, entrer dans un ordinateur, et l'expérience personnelle du sujet n'y intervient pas. Et donc, encore une autre citation tirée du manifeste. Donc, la conception scientifique du monde vise la science unitaire. De là, la recherche d'un système formulaire neutre, d'un symbolisme purifié des scories des langues historiques, de là aussi la recherche d'un système total de concepts. En science, pas de profondeur, tout n'est que surface. Tout est accessible à l'homme et l'homme est la mesure de toute chose. En fait, ce qui est très paradoxal dans cette approche, donc c'est à la fois le rejet de la transcendance et de la transcendance, pas seulement de la transcendance divine, mais même de la transcendance dans le sens d'une profondeur de l'être qui ne serait pas accessible à une formalisation par la raison humaine. Mais tout en rejetant cette transcendance, donc tout en disant que tout est accessible à l'homme et à l'homme en tant qu'être rationnel, on pourrait dire même en tant que mathématicien, hein, parce que c'est les mathématiques qui sont là le modèle de la science. Donc, tout en disant que tout est accessible à l'homme et que l'homme est la mesure de toute chose, en fait, c'est l'élimination de l'homme en tant que sujet connaissant. Donc, c'est l'homme en tant que raison et raison formalisée, mais pas en tant que sujet connaissant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réaction à ce programme et en fait une réaction à l'intérieur de l'histoire des sciences dites dures. Donc, je vous entretiendrai dans quelques instants des sciences dures parce que si un tel projet de raison formalisée échoue en sciences dures, hein, en mathématiques, en physique, bah, à plus forte raison, il va échouer en sciences humaines. Alors, un peu de mathématiques, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez sans doute entendu parler des théorèmes d'incomplétude de Gödel. En fait, qui, alors sous certaines conditions, voilà, que vous pourrez lire, postule qu'on peut formuler une proposition dont on sait qu'elle est vraie et dont on ne peut pas prouver qu'elle est vraie. Parce que c'est justement un énoncé, ce qu'on appelle en fait un énoncé de Gödel, c'est un énoncé, une proposition qui affirme qu'elle est indécidable, justement qu'on ne peut pas la prouver. Mais on voit, disons, il y a eu comme on pourrait dire une saisie intuitive, hein, qui monte, qui nous amène à dire oui, c'est vrai, elle est indécidable. Mais justement, sa vérité ne peut pas être prouvée à l'intérieur du système d'axiomes qu'on a formulé. Et cela montre donc, hein, que la vérité transcende la prouvabilité, même en mathématiques. Et que donc, il y a les capacités, disons là, mais rationnelles, humaines, donc, dans un sens justement non formalisé, qui dépasse en fait ce qu'on peut prouver sur un strict plan formel. Et donc, ça signe donc l'échec du projet du cercle de Vienne à l'intérieur même des mathématiques qui pourtant étaient, disons, la science avec le plus grand espoir de le voir aboutir. Alors ensuite, j'avance en très grand pas. Un auteur qui a écrit un ouvrage donc, en 1962, hein, La structure des révolutions scientifiques, et qui, là, en fait, le livre même a déclenché une révolution en épistémologie, hein, en théorie de la connaissance scientifique, et qui montre par des exemples historiques très précis que l'activité scientifique et dans les sciences dures en physique se déroule à l'intérieur d'un paradigme. Donc Thomas Kuhn est historien des sciences. Alors bon, vous avez peut-être déjà vu ce qu'il propose. Alors là aussi, on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans les détails, mais donc Kuhn distingue entre une période de science normale où on travaille à l'intérieur d'un paradigme qui est universellement accepté à force de continuer les recherches, il y a des anomalies qui s'accumulent et qui déclenchent une crise. Alors là, si vous voulez un exemple donc, en physique, c'est le moment à la fin du 19e siècle où on se rend compte que la physique classique ne permet pas de décrire l'atome. Donc l'atome devrait être instable si on utilise justement les équations de la physique classique, donc de la physique newtonienne. Donc on entre dans une crise. Alors à ce moment-là, on réussit à surmonter la crise, hein, avec la formulation de la mécanique quantique. Et donc, révolution scientifique qui établit ensuite une nouvelle science normale. Donc ça, c'est l'issue heureuse d'une crise. Il peut aussi arriver qu'on reste simplement dans la crise, hein, qu'on ne sait pas comment en fait résoudre, donc on est dans l'impasse, ou alors l'establishment scientifique ignore la crise et continue à faire la science normale comme si rien ne s'était passé. Et donc, c'est un modèle de la pratique scientifique, alors formulée pour les sciences dures, mais qui vaut aussi, je crois, pour les sciences humaines, et qui montre en fait qu'il y a que la pratique de la science est une pratique communautaire. Et donc, qui dit communauté dit préjugé. Alors, disons préjugé, dit conviction partagée qui ne sont pas remises en question. Et si on les remet en question, en fait, on est éjecté de la communauté. Donc, il y a des mécanismes de contrôle dans la communauté scientifique, alors qui s'appellent les études. Je veux dire, on ne vous admet pas, on ne vous écoute pas tant que vous n'êtes pas passé par un long processus d'initiation, processus dans lequel vous intégrez les convictions justement du groupe. Et même si vous êtes un membre établi de cette communauté, il y a toujours des mécanismes de contrôle, en particulier le fameux peer review, qui n'est rien d'autre que de dire que si vous formulez quelque chose qui ne respecte pas les catégories du raisonnement accepté, vous êtes ignoré, vous êtes éjecté. Alors là, j'utilise, disons, des termes assez négatifs, mais en fait, en tout cas en sciences dures, c'est un mécanisme qui est extrêmement performant. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un mécanisme qui fonctionne sans conviction partagée et sans exclusion aussi de voix minoritaires. Un autre auteur alors, sur lequel j'ai travaillé et donc qui me tient à cœur, il est beaucoup plus marginal que Thomas Kuhn, donc c'est Michael Polanyi, qui d'ailleurs avant Kuhn en fait souligne la dimension tacite de toute connaissance. Donc la connaissance tacite est justement la partie de la connaissance qu'on ne peut pas entrer dans un ordinateur ou écrire sur un bout de papier, et qui souligne que la connaissance est toujours celle d'une personne. Et Polanyi donne toute une panoplie d'exemples. Je peux peut-être juste donner un exemple. C'est la compréhension d'une preuve mathématique, encore une fois. Donc, il dit, alors je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs de vos cours de mathématiques, et surtout, j'espère qu'on vous a montré certaines preuves mathématiques et qu'on ne vous a pas fait simplement apprendre des théorèmes par cœur. Mais si je vois en fait une preuve mathématique, donc je peux, je peux simplement vérifier à chaque étape que les règles de la logique sont respectées. Mais ça, ce n'est pas encore comprendre une preuve. Donc il y a un moment où, comme il y a un déclic, on se dit, maintenant j'ai compris, ou on saisit la cohérence de l'ensemble. Et ce déclic-là est justement la compréhension, plus que la simple vérification des règles formelles. Et Polanyi alors utilise une comparaison qui dit, au fond, regarder une preuve mathématique ou d'ailleurs une preuve, un raisonnement scientifique quelconque, en vérifiant que les normes formelles de la logique sont respectées, c'est comme si on regardait un jeu d'échecs et on vérifierait simplement que chaque coup correspond en fait aux règles du jeu. Et bien sûr, quand vous êtes expert du jeu, vous discernez un plan, vous voyez une stratégie, un but poursuivi, vous n'êtes pas simplement là en train de vérifier qu'on a bien respecté les règles du jeu. Et donc, il y a donc une connaissance, mais justement tacite, implicite, qui est toujours celle d'une personne et qui donc du coup est lestée de théorie et le cas échéant même de théorie donc métaphysique voire religieuse. Ayons donc voilà, on pourrait approfondir parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de travaux en épistémologie qui montrent l'influence des convictions métaphysiques voire religieuses en science. Mais on pourrait dire, d'accord, je suis d'accord que sur le plan théorique, il y a des préjugés qui rentrent, des convictions, etc. Mais dans la pratique, la science est bien un effort collaboratif qui permet aux chercheurs de différents arrière-plans, de différentes convictions de collaborer Et c'est justement cette collaboration qui était recherchée, et donc cette neutralité. Et donc, je crois qu'il faut donc distinguer entre la neutralité, qui est une illusion, et l'objectivité qui était recherchée. Je voudrais montrer comment, d'un point de vue chrétien, alors là, je me place maintenant de façon consciente du côté chrétien, donc jusque-là, je vous ai fait part donc de travaux de philosophes qui sont, disons, pour Polanyi, il y a certaines convictions religieuses, pour Kuhn, je n'en sais rien, et pour le cercle de Vienne, ils sont au moins agnostiques, sinon athées. Mais donc, à partir de maintenant, donc, je vais assumer de façon consciente le point de vue biblique, et donc de réfléchir à la question de quelle place justement peut la foi avoir en science, science de la nature, science humaine, d'un point de vue chrétien, et comment comprendre que les sciences sont une entreprise multiculturelle et multireligieuse, tout en plaidant pour un rôle de la foi en science et en science humaine en particulier. Alors déjà, un élément important de la vision humaine, c'est la distinction entre créateur et création. Et cette distinction-là, cette dualité, permet une description du monde en termes de références propres à la créature. Une vision animiste ne le permet pas. Le Proche-Orient ancien aussi se faisait remarquer par une confusion entre le sphère divin, donc des divinités, et le sphère terrestre. Du coup, d'ailleurs, la magie, la confusion entre astronomie et astrologie. Mais la vision biblique introduit une distinction claire entre créateur et création, qui d'ailleurs, entre autres, a impliqué le rejet de l'astrologie. Donc déjà dans la Bible et aussi parmi, donc, au cours des premiers siècles de l'Église, donc c'était vraiment un trait distinctif du christianisme dans un environnement qui justement confondait très largement astronomie et astrologie. Mais donc cette distinction entre créateur et création permet une description du monde en termes de références propres à la créature. Donc il y a, on pourrait dire, un projet de science sécularisée qui est en accord avec cette distinction entre le créateur et la création. Et il y a aussi donc l'idée que l'homme est créé en image de Dieu et que c'est donc tout homme et que donc la raison humaine est universelle. Se greffe comme deuxième concept la grâce commune, donc il y a la grâce dont bénéficie tout homme, pécheur ou converti, et qui implique que même l'incroyant jouit des facultés cognitives liées au statut d'image de Dieu. On peut encore ajouter un élément supplémentaire, que si des convictions religieuses jouent un rôle dans la pratique des sciences, certaines de ces convictions sont incorporées, en tout cas, c'est ce que je plaide, sont incorporées dans la pratique elle-même, justement ce qui est considéré être the best practice, donc la pratique qui fait norme, et ces présupposés proviennent en fait de la vision chrétienne. En fait, ils sont tellement intégrés à la pratique que la plupart des gens, même des chrétiens, ne se rendent même plus compte que ces présupposés proviennent à l'origine de la vision biblique, comme la liberté de l'homme ou l'importance de l'histoire. Parce que pour nous, c'est évident de réfléchir à des questions en termes historiques, mais l'idée d'un déroulement linéaire de l'histoire, c'est quelque chose de, disons, c'est une particularité de la vision biblique, alors que, par exemple, la vision hindoue, bouddhiste, ou aussi encore du Proche-Orient ancien, donc on a cette idée en fait de grand cycle. Donc en fait, il n'y a pas de réel progrès parce que de toute façon, l'histoire ne fait que se répéter, on est dans des grands cycles. Donc l'idée que l'histoire a un but et une fin et que donc l'action humaine a un sens irremplaçable, je veux dire, tout cela, je pense que la plupart de ceux qui pratiquent aujourd'hui les sciences humaines ne savent même plus hein, que ce sont des que ce sont en fait un héritage sur le plan historique de la vision judéo-chrétienne du monde. Mais alors, si je dis que la pratique des sciences humaines est remplie en fait de présupposés chrétiens, ça ne veut pas dire que tout est pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Et une citation là de J.K. Chesterton que je trouve très intéressant pour justement analyser cet héritage chrétien. Chesterton a dit ceci: le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus sont devenues folles parce qu'isolées des uns des autres, elles errent désormais solitaires. Hein, donc l'idée, c'est que dans la vision, on pourrait dire occidentale du monde, et donc qui, dans laquelle s'inscrit hein, la pratique des sciences humaines, on trouve beaucoup de valeurs chrétiennes, vertus bibliques, mais ces vertus sont sevrées de leur terreau d'origine. Et du coup, elles sont devenues folles, comme dit Chesterton, ou on pourrait dire, elles ont été absolutisées. Hein, je vous donne un exemple, c'est la notion d'individu. De nouveau, je crois qu'on peut argumenter que la notion d'individu est un héritage de la vision biblique. Alors, maintenant, si je dis un héritage biblique, ce n'est pas non plus pour exclure l'apport grec. Donc, je ne suis pas non plus en train de dire que tout ce qui est bon dans la perspective occidentale vient donc de la Bible. Il y a aussi un apport de la philosophie grecque qui, ou là, qu'on pourrait attribuer à la Grèce commune. Et certainement, la Grèce antique a une notion de l'individu bien plus forte que dans beaucoup d'autres sociétés, disons, à travers le monde et à travers l'histoire. Mais je dirais ce sens aigu quand même hein, que l'homme occidental a de son individualité et de l'importance de l'individu par rapport au collectif. On peut dire qu'il y a au moins une influence chrétienne qui a renforcé l'héritage grec à ce niveau, donc très nettement. Et je crois que c'est d'abord à accueillir avec, disons, avec bonheur. Mais bien sûr, comme cette notion d'individu donc, a été sevrée de son terreau d'origine, cette notion a été absolutisée, et donc l'individu absolutisé donne l'individualisme, et donc en réaction en face, le collectivisme. Et donc cette difficulté de trouver une articulation harmonieuse entre les droits de l'individu et l'importance de la communauté, proviennent, je crois qu'on peut dire, du fait qu'il y a là une vertu chrétienne à la base, la valeur de l'individu, et qui a été sevrée de son origine. Et donc, cela montre donc que même les présupposés chrétiens intégrés à la pratique des sciences humaines pourraient profiter justement de retrouver un cadre théologique plus explicite. C'est ce que je vais essayer de montrer dans la deuxième partie. Et donc aussi, une remarque, je crois qu'on peut observer que plus on s'approche d'enjeux existentiels, plus les présupposés métaphysiques et religieux jouent un rôle important. Cela, je dirais, ça s'observe, hein, dire en mathématiques ou en physique. Je pense qu'on peut dire qu'il y a des petites différences dans la façon de faire les mathématiques ou de faire la physique suivant les cultures. Donc, j'ai le souvenir d'échanges avec des mathématiciens japonais ou russe, on ne fonctionne pas exactement de la même façon. Mais quand même, je crois qu'il y a un terrain d'entente beaucoup plus large. Alors que si vous arrivez déjà en biologie, il y a déjà des paradigmes un peu concurrentiels, et alors c'est encore beaucoup plus vrai en psychologie. D'ailleurs, on peut se demander si la psychologie est déjà parvenue à la maturité d'une science normale bien établie, hein, donc un paradigme reconnu par tous, ou si on n'est pas plutôt en face de plusieurs communautés qui se font la guerre, qui ne se respectent pas. Je dirais les psychanalystes d'un côté, par exemple, qui considèrent que Freud a, bon, j'exagère légèrement, mais parfois, on a l'impression que certains freudiens disons, donne l'impression que Freud a déjà tout vu, tout trouvé, ce qu'on peut dire sur la psyché humaine, hein, et en face, des psychologues qui considèrent que Freud, c'est la pseudo-science, hein, que ça manque tout appui, disons, observationnel. Hein. Donc là, vous avez en psychologie, vous avez des querelles, justement, entre différentes communautés, il n'y a pas forcément un paradigme, un cadre qui s'impose, et on pourrait voilà, ensuite parler aussi d'autres sciences. Hein, mais donc, et je crois la façon la plus facile disons, de comprendre cette différence entre ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles, c'est de dire que plus on s'approche d'enjeux existentiels, plus les présupposés métaphysiques et religieux jouent un rôle important, justement ne sont pas seulement un peu en sous-sol, hein, de la pratique, mais interviennent de façon explicite dans les choix qu'on fait. Alors, je m'arrête là pour quelques instants donc, d'échange avant de poursuivre. Et je crois qu'on avait dit qu'on n'allait pas enregistrer hein, les questions-réponses qui vous donne plus de liberté de vous exprimer. Donc, on ne va pas le retrouver ensuite sur ligne, ce que vous demandez, ce que vous écrivez maintenant. Et moi aussi, voilà. Donc, je vais revenir au partage d'écran. Voilà. Alors, le plus-value de la foi en science. Donc, j'espère que ça s'affiche bien chez vous. Donc, concrètement maintenant, donc j'ai essayé de poser les fondements et de dire oui, la foi et la foi chrétienne a une place en science. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte maintenant? Et donc là, je vais essayer de vous présenter plusieurs domaines où je considère que la foi a une place légitime. Donc, je rentre un peu dans les détails et je pense que ça sera intéressant de voir comment vous réagissez à cela. Alors, premier rôle que je vois de la foi, c'est de mettre en garde contre le scientisme. Hein, donc, c'est pas contre la science, mais contre le scientisme, donc contre l'idée que la science permettrait de tout expliquer. Donc, déjà, le croyant le sait, que Dieu lui-même échappe à la description scientifique. Jésus cite cette parole du Deutéronome, qu'il ne faut pas tenter le Seigneur, ton Dieu, qu'il ne faut pas le mettre à l'épreuve. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'expérience scientifique. C'est un peu dommage. Hein, il y a eu des expériences qui ont testé l'efficacité de la prière, par exemple. Hein, donc, de savoir si les gens guérissaient mieux hein, si on priait pour eux. Alors, à la grande surprise de ceux qui ont mené l'étude, il y a eu un effet, hein, donc, parce qu'ils s'attendaient à ne pas trouver d'effet. Ils ont trouvé un effet, mais plutôt un effet négatif. Voilà, bon, donc après, on peut réfléchir là-dessus, pourquoi. Mais bon, bref, je crois que, et ça, c'est déjà C.S. Lewis qui le disait, toutes ces expériences-là sont vouées à l'échec. Parce que ben justement, Dieu ne s'y plaît pas hein, au protocole expérimental. On ne peut pas d'ailleurs lui tricher en disant, mais bon, Dieu ne sait, disons, voilà, comment on fait avec des effets placebo, donc, où on donne un médicament, je dirais, et un placebo hein, à un groupe de contrôle. Bien sûr, Dieu sait ce qu'on est en train de faire. Donc, ben, il n'accepte pas de rentrer dans le protocole scientifique. Et je crois qu'on peut aussi plaider hein, que l'homme, en tant qu'être créé en image de Dieu, hein, échappe en fait à la prise, disons, à la description scientifique, au moins dans certains aspects de sa nature, hein, qu'il transcende donc ce que la science peut dire de l'homme, que l'homme est toujours plus hein, qu'aucune description scientifique. Et là, je ne pense pas seulement aux descriptions des sciences de la nature, mais je pense aussi en sociologie hein, ou en histoire, ou même en sciences des religions. Donc, il y a là quelque chose qui n'est pas capté en l'homme, un mystère, justement, une profondeur. Alors, je crois aussi que la foi aide de résister au réductionnisme. Alors, heureusement, tous les scientifiques non chrétiens ne sont pas réductionnistes. Il y a quand même une forte tendance au réductionnisme. Hein, donc, l'idée selon laquelle toutes les sciences, peuvent ou pourraient se réduire à une science fondamentale. Et donc, là aussi, justement, je considère que la foi chrétienne nous met en garde contre cela. Justement, la création est à différents aspects. Hein, donc, il y a la diversité du monde créé avec les six jours de la création. Hein, chaque espèce créée, disons, chaque être vivant créé selon son espèce. Et donc, il y a comme une impulsion contre le réductionnisme. Et bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour les sciences humaines, parce que typiquement, dans le réductionnisme, on imagine qu'on pourrait faire les sciences humaines sur le modèle des sciences de la nature, et pas l'inverse. Et cela donc libère les différentes sciences humaines pour qu'elles emploient la méthode la mieux adaptée à leur angle d'étude. Alors, je ne nie pas qu'il y a une démarche un peu méthodologique commune aussi, mais il y a quand même, chaque science a sa propre méthodologie et elle n'est pas la même suivant l'angle d'étude adaptée. Et je crois que là, la foi aide à voir cela. Heureusement, les croyants ne sont pas les seuls à voir cela, mais ils pourraient être plus alertes par rapport à cela que peut-être des athées qui, justement, voudraient chercher un substitut pour Dieu hein, et pour l'unité qui vient du Créateur, et donc de chercher ce substitut donc, à l'intérieur du monde et donc arriver au réductionnisme. Alors, deuxièmement, et là, ça c'est assez controversé, hein, ce que je vais vous dire là, mais bon, j'ose dire, je crois que les données bibliques et la foi chrétienne peuvent légitimement mettre à l'épreuve et compléter les connaissances scientifiques. Alors, bien sûr, un mot de mise en garde tout de suite, je crois que trop souvent dans l'histoire, les résistances religieuses ou théologiques ont été mal fondées. On va vous dire Galilée, bon, là c'est peut-être l'exemple par rapport auquel à peu près tout le monde est d'accord, hein, pour dire que là il y a une résistance qui venait donc de, disons, d'une certaine façon de lire la Bible et qui donc là donc a été tout à fait mal fondée. Donc nous entrons sur un terrain miné, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ça serait toujours et dans toutes les situations illégitimes. Parce que contre Kant, je considère que la théologie peut délivrer des vérités qui interviennent de façon légitime dans les sciences humaines. Et pourquoi en fait exclure a priori que Dieu a parlé sur des sujets qui relèvent du domaine des sciences? Je veux dire, au nom de quoi on aurait, d'ailleurs on l'entend assez souvent, hein, même parmi les chrétiens, de dire que la Bible n'est pas un manuel des sciences. Oui, c'est vrai, la Bible n'est pas un livre scientifique. Mais est-ce que ça veut dire que la Bible ne contient aucune vérité qui aurait une portée sur la pratique des sciences, et en particulier des sciences humaines? Là, j'ai du mal à le croire, et je considère que c'est un a priori assez lourd, hein, et que je ne suis pas prête à suivre. Je vous signale un auteur qui a été assez marquant dans ma propre évolution. C'est l'auteur donc Newbegin, Leslie Newbegin, qui a écrit différents ouvrages, entre autres donc The Gospel as Public Truth, qui est un petit livre qui alors l'Évangile comme vérité publique, qui justement recuse cette dichotomie entre fait et valeur, entre science ou connaissance et foi. Et qui dit, mais le propre de la foi chrétienne, c'est d'affirmer des faits. Des faits, je vais notre salut, c'est une vérité historique. Et si Jésus est Seigneur, et si ce monde est créé par Dieu, ça ne devrait pas faire partie du cours de religion, mais ça devrait faire partie des cours de science et de philosophie, hein, parce que c'est une vérité qui doit absolument orienter tout ce que nous savons sur ce monde. Alors là où New Began est très intéressant, c'est qu'il ne prêche pas du tout un retour à un empire chrétien ou à une confusion entre le trône et l'autel, mais il essaye donc de montrer des pistes comment les chrétiens peuvent proclamer l'évangile comme vérité publique, donc comme vérité, et pas seulement comme opinion religieuse, tout en respectant le cadre d'une société multireligieuse avec donc liberté de conscience. Donc voilà, ça, peut-être on fera une fois une journée RH sur les thèses de Leslie Newbegin. Je pense que ça vaudrait le coup de discuter cette thèse, comment l'évangile peut être une vérité publique. Maintenant, j'essaye d'être encore un peu plus précise. En quoi, comment des vérités théologiques pourraient impacter directement les sciences humaines? Je vous donne deux exemples dont je suis relativement confiante. Vous me direz ce que vous en pensez. Premier exemple, la religion dans des études de terrain ethnologique et sociologique. Je crois qu'il est nécessaire de prendre en compte la religion comme un phénomène à part et qui ne se laisse pas réduire à des catégories socio-économiques. Et que là, le chercheur qui a lui-même des convictions religieuses a peut-être un avantage sur le chercheur athée qui manque en fait des catégories et des expériences qui pourraient lui permettre d'entrer en sympathie avec ceux qu'ils étudient, ceux qu'ils étudient. Je pense à tout le concept des recherches de l'observation participative, donc où on dit justement que en ethnologie, en particulier ou en sociologie, bon, bien sûr, il faut garder sa distance critique, mais si on veut vraiment comprendre comment une communauté fonctionne, il faut accepter d'entrer dans son fonctionnement, de participer à ses activités et même d'accepter de voir le monde un peu comme eux voient le monde. Et ça sera beaucoup plus facile pour un chercheur qui a lui-même une expérience religieuse de saisir, par exemple, le rôle que joue la religion pratiquement dans toutes les cultures non occidentales. Alors, je vous donne une citation de Mircea Eliade. Alors là, c'est sûr, c'est une référence, on pourrait dire, un peu ancienne, mais je crois toujours valable. Donc, Mircea Eliade qui dit ceci: un phénomène religieux ne se révélera comme tel qu'à condition d'être appréhendé dans sa propre modalité, c'est-à-dire d'être étudié à l'échelle religieuse. Vouloir cerner ce phénomène par la physiologie, la psychologie, la sociologie, l'économique, la linguistique, l'art, etc., c'est le trahir, c'est laisser échapper ce qu'il a d'unique et d'irréductible en lui, nous voulons dire son caractère sacré. Alors, je vous laisse le reste de la citation. Et il me semble qu'on peut observer donc ces réductions et même des effets néfastes maintenant sur le plan pratique, pragmatique, de cette tendance au réductionnisme. Alors, je vous donne un exemple qui est tous ces efforts de déradicalisation, donc vis-à-vis là, donc des extrémistes religieux, donc islamistes en général. Et donc, si vous écoutez ceux qui présentent ces programmes, assez souvent, on va expliquer cet extrémisme religieux par des conditions socio-économiques déplorables. Je ne dis pas que ces conditions ne jouent pas de rôle, mais tant que vous pensez que vos programmes de déradicalisation peuvent se limiter à changer les conditions socio-économiques, vous n'avez pas pris en compte l'aspiration spirituelle de l'être humain. Je pense que vous ne serez pas efficace dans vos projets de déradicalisation. Donc, premier exemple, donc la prise en compte de la religion, et deuxièmement, le péché en psychologie et en sociologie. J'ai le souvenir, ce qu'on m'a raconté, alors je ne l'ai pas vérifié de première main, je dois dire, c'est une amie donc psychologue américaine qui m'avait dit que certains hôpitaux américains avaient décidé de faire appel à des psychologues chrétiens parce que justement ils avaient une notion de péché dont ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin dans leur thérapie et qu'une thérapie fonctionnait mieux s'ils acceptaient de prendre en compte cette catégorie religieuse en fait du péché. Et bien sûr, le péché, donc la prise en compte du péché, influence le type de questions de recherche que nous posons et les données que nous prenons en compte. Et donc, pour faire plaisir à David Brun, donc, j'ai inclus une citation de Blaise Pascal. Aussitôt que la religion chrétienne découvre ce principe que la nature des hommes est corrompue et déchue de Dieu, cela ouvre les yeux à voir partout le caractère de cette vérité, car la nature est telle qu'elle marque partout un Dieu perdu, et dans l'homme, et hors de l'homme, et une nature corrompue. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai appris par la théologie, par la religion, je peux trouver des traces de ce péché ensuite par l'observation alors, du monde humain en particulier. Alors, je vais peut-être, parce que je vois que le temps avance, je vais peut-être laisser ce point-là. Et je passe directement au point 4. Donc, protéger la dignité de l'être humain. Alors là, je cite la loi de base, qui est la Constitution, qui fait office de Constitution de la République allemande, qui s'ouvre, donc le premier article, donc affirme dans sa première phrase, la dignité humaine est intangible. Bien sûr, c'était en réaction au nazisme. On est en 1940. Donc, la dignité humaine est intangible. C'est, si on se demande d'où ça vient, oui, c'est une notion biblique, chrétienne. Et alors là, des répercussions sur la pratique des sciences humaines. Déjà, en ce qui concerne des expériences impliquant des êtres humains, il faut une déontologie extrêmement strict. L'homme n'est jamais simple moyen. Et là, je cite Kant en approbation. Et alors, d'ailleurs, pour revenir à une question très actuelle, d'une certaine façon, c'est assez embêtant, parce que ça limite ou ça complique les tests qu'il faudrait faire, les tests cliniques pour les vaccins. Ce serait tellement plus facile si on avait un groupe d'hommes dont on pourrait décider que ce sont des hommes inférieurs, des prisonniers, des opposants politiques, des blancs, voilà, dont on n'aurait pas besoin, et sur lesquels on pourrait faire des expériences de masse. On leur donne le vaccin, on les contamine avec une bonne dose du coronavirus, on observe ce qui se passe sur 3 mois, je dirais, on aura le vaccin comme certains espèrent, d'ici la fin de l'année civile. On ne le fait pas. Et je pense qu'on a des raisons de ne pas le faire. Du coup, ces tests, ces essais cliniques sont beaucoup plus longs, ce qui nous impose au reste de la société, donc une beaucoup plus grande discipline pour vivre encore quelques mois sans vaccin. Mais l'homme n'est jamais simple moyen. Et donc là, c'est une restriction à laquelle aussi les sciences humaines se heurtent en continu. Je pense aux expérimentations en psychologie. Il y a certaines expériences qu'on aurait peut-être envie de faire, mais qui peuvent être assez néfastes aussi, assez traumatisants pour les sujets sur lesquels on les ferait. Donc, l'homme n'est jamais simple moyen. Mais alors, la pratique scientifique, justement, c'est une pratique communautaire. Donc, on a des collègues, on a des étudiants, si on est chercheur-enseignant. Et donc, la parole de Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. » Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Donc là, c'est pas évident. Dans un système quand même très concurrentiel, alors en tout cas, là, je parle des sciences humaines telles qu'elles se pratiquent dans le monde académique, c'est extrêmement concurrentiel. Si vous voulez décrocher une place en tant que maître de conf et professeur, vous avez peut-être intérêt à éliminer un peu vos concurrents. De dire non, je ne travaille pas là pour ma propre carrière, mais j'accepte de faire avancer les autres, de faire passer peut-être les intérêts de mes collègues avant les miens. J'ai eu la chance, donc là c'était en physique, d'avoir eu un professeur, donc directeur de recherche, qui était vraiment très respectueux de ses étudiants, et alors qu'il aurait eu le droit légal de publier en fait les travaux des mémoires là de maîtrise, on considérait que un étudiant qui est au niveau maîtrise au master, donc n'est pas encore suffisamment indépendant, donc le professeur a tout à fait le droit de publier ses résultats sous son nom. Non seulement il refusait de le faire, mais il refusait même de mettre son nom avec le mien. Donc j'ai le souvenir parce que j'ai publié 2 articles après mon mémoire de master, et donc je voulais le mettre en co-auteur. Il a refusé, il a dit non, c'est vous qui avez fait les calculs, moi je ne serai pas capable de les refaire si on me demande de le faire. C'est votre travail, vous le publiez à votre nom. Alors, ensuite, je n'ai pas fait une carrière en physique, mais c'est clair, si on a un article publié avec auteur unique, hein, je veux dire, ça compte après dans la construction d'une carrière. Et donc, voilà, là aussi, on est peut-être dans la pratique de la science, ben oui, aussi le respect de l'autre sous la personne de ses collègues et de ses étudiants. Et alors aussi, le respect de moi. Parce que moi, alors je suis responsable devant Dieu, mais je suis aussi justifiée par grâce et non par mes exploits scientifiques ou autres. Ce qui peut aussi permettre d'un certain détachement. Il y a eu, je pense, à un cas en particulier, où une personne a même s'est suicidée parce que ses travaux académiques n'ont pas été reconnus. En principe, la foi devrait nous prémunir contre cela parce que nous savons que ce n'est pas cela qui nous définit. Alors, je vois un peu l'heure tourner. Je vais peut-être quand même changer. Je vais très rapidement vous montrer le troisième point et comme ça, on aurait en conclusion plutôt un temps de discussion que je voulais vous montrer maintenant très rapidement le plus-value de la science pour la foi. Donc ça, c'est peut-être pour ceux justement qui sont en sciences humaines. Un petit encouragement que vous pouvez faire quelque chose pour les autres chrétiens, pour les pauvres théologiens aussi, dont je fais partie. Voilà. Donc, premier point, renouveler la lecture biblique. Alors là, je pense à la philologie. Donc, on a énormément fait de progrès au cours des 200 dernières années, on pourrait dire, ou disons depuis le 19e siècle, dans la connaissance des langues bibliques, de la connaissance des langues aussi du Proche-Orient ancien. Donc là, vraiment, surtout dans la lecture du texte hébreu, donc on a fait énormément de progrès. Alors la linguistique aussi. Alors là, je ne sais pas dans combien de sermons on vous a dit ce mot-là, à cette étymologie-là, et donc on en tire des conclusions théologiques. Alors, ceux qui ont fait de la linguistique savent que l'étymologie ne livre pas le sens d'un mot. Ils savent aussi que des variations dans la formulation peuvent avoir des raisons stylistiques plutôt que théologiques. Alors, un exemple, vous avez peut-être déjà entendu des sermons sur le fait que quand Jésus pose 3 fois la question à Pierre dans Jean 21, c'est la 3e fois que Pierre est attristé. Et d'ailleurs, le texte dit bien que c'est parce que c'est la 3e fois. Mais combien de prédicateurs font remarquer qu'il y a un changement dans le verbe grec et que c'est ça qui expliquerait la tristesse de Pierre. Sauf que Jésus et Pierre ont probablement parlé araméen et pas grec à ce moment-là. Et que justement, on peut varier simplement pour des raisons stylistiques plutôt qu'au niveau du sens. Et là, c'est donc là les linguistiques pourraient mettre en garde les prédicateurs contre, des emplois un peu abusifs de certaines connaissances. Bien sûr, l'archéologie, donc pour prendre l'histoire, nous a permis de comprendre bien mieux le monde biblique. Je vous donne juste un exemple, les chérubins dans Ézéchiel 1. Alors, vous êtes peut-être déjà posé la question, mais qu'est-ce que c'est, ces chérubins dans Ézéchiel 1, dans sa vision d'Ézéchiel, vous allez au Louvre et vous trouvez des chérubins. Alors, ça se dit un peu différemment en langage babylonien, mais ce sont des êtres composés. Alors, le mot, donc en babylonien, est assez proche, donc il est employé dans les langues parlées dans les régions. Donc, ce sont des êtres composés. D'ailleurs, là, vous reconnaissez visage humain, aile, taureau, lion. Vous avez vraiment les 3 composantes. Alors, c'est un peu différent des chérubins décrits Ézéchiel 1, mais c'est le même type d'être. Et ce sont des êtres semi-divins. Et donc là, tout d'un coup, on se dit, bah oui, Ézéchiel est à Babylone, il est en exil, son peuple est captif. Et ce que Dieu lui montre dans cette vision, c'est que tous ces dieux qui semblent être victorieux, hein, c'est ces dieux païens qui sont, ou ces êtres demi-divins, donc qui semblent victorieux, qui sont assez impressionnants parce que très grands, mais tout ça, ce sont que des coursiers du trône de l'Éternel qui sont à son service. C'est le Seigneur Yahvé qui est le vrai Dieu. Donc là, vous avez le texte, c'est clair, hein, de façon très différente si vous avez cet arrière-plan archéologique. Et là, les archéologues, justement, ont vraiment fait du très beau travail pour améliorer la compréhension des textes bibliques. Alors, bon, je laisse ça. Deuxième élément, donc, les sciences, et les sciences humaines en particulier, apportent des outils pour le travail pastoral. Je pense à la dynamique des groupes. Il faudrait former les pasteurs à la dynamique des groupes, ça aiderait beaucoup à la gestion des rapports dans l'Église. Ou alors des profils psychologiques, hein, ceux qui me connaissent, je parle assez souvent d'un petit livre qui s'appelle « Comment gérer les personnes difficiles ». Et plus d'une fois, hein, ce livre écrit par deux psychologues qui, je ne pense pas qu'ils soient chrétiens, hein, mais ce livre-là donc, m'a aidé dans mes rapports avec tes collègues, avec tes collaborateurs, pour savoir comment les prendre, pour, plutôt que de m'énerver, hein, de prendre en compte certaines fragilités et d'exploiter aussi, hein, d'exploiter en tout cas, mettre à profit, hein, du groupe leur point fort. Et bien sûr, les connaissances psychologiques aident quant au travail de deuil, aident au niveau de la prise en compte du choc culturel, etc. Alors bien sûr, il s'agit toujours de saisir le propre du travail pastoral. Le pasteur n'est pas un conseiller en relation d'aide, il ne doit pas le devenir, mais sa pratique peut s'éclairer de ces différents apports des sciences humaines. Et un dernier élément, et je termine donc sur cette citation de John Stott, donc les sciences, et les sciences humaines en particulier, permettent une meilleure compréhension du monde dans lequel nous sommes appelés à vivre et à prêcher l'Évangile. Et John Stott parlait de cette tâche de la double écoute. Nous devons donc écouter la Bible et avoir le journal dans l'autre main, et on pourrait dire justement tous les apports des sciences humaines pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous devons vivre en tant que chrétiens, et le monde dans lequel nous devons prêcher l'Évangile. Voilà, je m'arrête là, et ça nous laisse, bon, pas assez de temps pour les échanges, mais quand même un peu. Déjà, merci pour votre écoute.
Merci, Lydia. C'est très riche. Je vais juste dire, pendant que je pense que tu as enlevé le PowerPoint, je vais juste dire que on va envoyer aux participants le PowerPoint. Donc, si vous n'avez pas tout noté, c'est pas grave. Johan, je pense que c'est toi qui peux le faire. Hein. Voilà. Donc, vous aurez le PowerPoint avec toutes ces citations, etc. Donc, voilà. Cadeau de la part du Rech. voilà. Donc, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de questions par écrit. Donc, je laisse.